Les As de la CoPro, la séquence politique.
Séquence politique et économique. On va parler des honoraires du syndic. Alors les honoraires, au moment où on fait son chiffrage, au moment où le syndic est consulté par des copropriétaires pour une nouvelle affaire, les copropriétaires vont lui demander une proposition de contrat de syndic. Le syndic va envoyer une offre, un contrat, il va se déplacer à l'immeuble et en fonction d'un certain nombre de critères, il va faire une proposition d'honoraires de base, c'est-à-dire le forfait annuel. Aujourd'hui, la pratique, est-ce que ça a toujours été comme ça? Je ne sais pas. C'est de calculer ses honoraires en fonction du nombre de lots principaux. Et ensuite, on ajuste plus ou moins en fonction des équipements. Alexis, est-ce que c'est la bonne méthode de calcul?
Alors déjà, un petit peu d'histoire, c'est d'où et de quand proviennent un peu ces modes de calcul au lot? Parce que c'est vrai qu'on, dans la pratique, on utilise ce référentiel du lot. Donc une moyenne au lot, sachant qu'après, ces honoraires sont répartis par des tantièmes de copropriété. Donc, quoi qu'il arrive, deux copropriétaires ne paieront pas forcément le même montant des honoraires, mais c'est la pratique. En fait, il faut remonter assez loin, puisque c'est à l'origine de la taxation administrative des honoraires en copro. Après les ordonnances en 45,
je crois que 1945,
oui, ça a commencé dans les années 60 pour les syndics. On avait donc les honoraires qui étaient fixés au lot, donc quand on reprend alors les derniers arrêtés que j'ai pu me procurer, c'était en 74, on avait des honoraires qui étaient déterminés en fonction de la catégorie des immeubles. C'était un classement issu de la loi du 1er septembre 1948. Donc on avait cette première catégorie et on calculait aussi le nombre de lots.
C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était les lois sur le contrôle des prix pour lutter contre l'inflation.
Voilà, exactement. Et puis, il y a eu une légère modification du système où on a commencé à avoir toujours un calcul au lot, mais avec par lots principaux et avec des tranches dégressives en fonction de la taille de l'immeuble. Donc finalement, après, la pratique a continué à travailler de cette façon-là. Jusqu'à la fin de la taxation en 1986 avec l'ouverture de la libre concurrence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on réfléchit avec ce métrique qui est le lot. C'est vrai que sur la manière de fixer les honoraires aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui de manière scientifique. On le fait pas de manière. Alors je vais pas dire jusque qu'on le fait au doigt mouillé, mais parfois on se demande si des honoraires ne sont pas fixés au doigt mouillé. Ce qui est certain, c'est que on ne prend pas suffisamment, à mon sens, compte des spécificités de l'immeuble quand on fait des propositions
de
tarifs.
Il y a les lots, il y a les équipements, mais finalement c'est le temps passé.
Alors c'est beaucoup de temps passé. Alors c'est vrai qu'à l'époque de la taxation, on avait véritablement ce qui relevait de l'immeuble, de la taille de l'immeuble, mais aussi on avait des coefficients majorants en fonction des équipements de l'immeuble.
La présence, parce que plus il y a d'équipements, plus il y a de panne, plus il y a de demandes de sollicitation.
On avait même, ça fera peut-être partie aussi d'un des sujets, sur les immeubles neufs. On avait un forfait supplémentaire de 15% pendant les 18 premiers mois suivant l'achèvement de l'immeuble. Peut-être quelques idées à reprendre dans le cadre de la concertation bisannuelle pour les immeubles neufs, dont on sait que la surcharge de travail est importante. Ce qui est en tout cas important quand on fixe un petit peu les honoraires, ça je prendrai un peu exemple sur nos voisins, c'est peut-être une idée qu'on pourrait intégrer dans le cadre de la code de déontologie, c'est que les honoraires doivent assurer la rentabilité de la profession. Ça, c'est ce qui est chez nos voisins intégré dans leur code de déontologie. On l'a pas forcément chez nous, mais je pense que ça pourrait
être... Ne pas travailler à perte, c'est ça que vous voulez
dire. Important, puisque on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, on travaille parfois à perte. Donc, fixer et travailler au temps passé, c'est un élément important, d'autant qu'on sait mesurer aujourd'hui à peu près le temps que l'on passe à réaliser, à gérer un immeuble. Quand on fait des exemples, ça fait partie de formations que l'on fait à nos gestionnaires, et ben on leur explicite le temps, on leur fait calculer le temps passé sur un immeuble. Sur un immeuble de 10 lots, ben on s'aperçoit que c'est minimum 30 heures de travail entre le travail du gestionnaire, on comptabilise à peu près à 19 heures, le comptable ou la comptable 4 heures, l'assistant ou l'assistante 6 ou 7 heures.
Oui, donc vous avez des ratios quand même.
On commence à avoir des ratios, et quand on met après, il suffit de mettre les salaires des gestionnaires et de l'ensemble du cabinet à côté, et on sait qu'on a des seuils, des points morts, en deçà duquel on n'assure pas de rentabilité de l'exercice. Donc c'est un élément extrêmement important. Alors ça revient au sujet du prix de revient du lot que l'on doit pouvoir mesurer assez finement. Alors je ne sais pas si on pourrait avoir d'autres critères pour Pour créer un nouveau métrique, hein, on pourrait imaginer plein de choses. Hein,
les mètres carrés de l'immeuble.
On pourrait mettre les mètres carrés. Les Suisses ont un travail assez intéressant, c'est qu'eux, ils calculent, les honoraires sont calculés en fonction de la valeur assurantielle de l'assurance incendie. Et c'est une valorisation pour millième de la valeur incendie. C'est vrai que nous, on a des multirisques habitations immeubles, hein, où on a une revalorisation à reconstruction. On pourrait utiliser du timesheet, on pourrait utiliser peut-être indexer les honoraires sur le budget, mais je pense qu'on serait très vite taxé de surélever le budget.
Quand on regarde dans la pratique, on est à peu près les honoraires du syndic entre 10 et 12%. Mmh. On pourrait aussi parler du critère le taux d'emmerde. Bon, ça, c'est certains qui en parlent, mais ça revient sur le temps passé.
On pourrait créer aussi des IV, une sorte d'UV en fonction, un peu comme à l'image à l'époque, hein, tel équipement, tel UV pour déterminer.
Parce que le temps passé, finalement, dépend aussi souvent des gens qui habitent à l'intérieur de l'immeuble et de l'ambiance entre les copropriétaires et du conseil syndical, chronophage ou pas chronophage. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Sabrina, je ne sais pas, ça m'est arrivé de le faire une fois, c'est-à-dire de revoir mon prix, mais de le revoir bien, à l'année N+1. C'est-à-dire, on leur dit, désolé, je me suis un peu trompé dans le prix, finalement, vous êtes très chronophage, je revois mon prix, et c'est passé.
Alors, tant mieux, c'est bien que ce soit passé dans ces conditions, c'est pas toujours le cas. Moi, je pense que sur la fixation du prix, alors c'est vrai qu'on n'a pas, aujourd'hui, on n'a pas une sorte d'argus de la copropriété qui nous permettrait de dire, bah, pour telle catégorie d'immeubles, il faudrait avoir un prix moyen du lot ou un prix moyen tout court de gestion globale de temps. Ce qui est intéressant, c'est au moins de lorsqu'on chiffre un immeuble, alors même si aujourd'hui, le seul référentiel, c'est le prix par lot et le prix moyen en fonction de où on est situé en France, mais c'est aussi de se dire, bah, on a des équipements collectifs, quand on récupère un immeuble, notamment quand on fait une proposition de syndic, voire quand on met un immeuble en copropriété, on a quand même des informations essentielles qui sont celles de les équipements collectifs, s'il y a des procédures, le taux d'impayé, enfin ces éléments qui sont concrets, qui nous permettent...
C'est des indicateurs.
Qui sont des indicateurs et qui vont nous permettre d'estimer le temps, justement, on en revient un peu aux mêmes conclusions, le temps passé, alors on n'est pas une profession pour laquelle on peut chiffrer uniquement du temps passé. Néanmoins, on peut effectivement se poser la question de la rentabilité.
Le sablier, on va faire comme les avocats. Le sablier, dès qu'un copropriétaire nous appelle au téléphone, hop, le sablier, on compte le temps passé. Je vois Pierre-Édouard.
Pour en revenir juste, excusez-moi, Pierre-Édouard, c'est vrai que la notion de barème, ça aurait été intéressant. C'est nos voisins belges que vous connaissez de l'IPI. Hein. C'est qu'à l'époque, à l'IPI, il y avait un barème de référence des honoraires et la Commission européenne, je crois, en 2004, a annulé bonnement et simplement cette référence au barème, puisque ça a intenté...
Avec des prix planchers, d'ailleurs, ça éviterait d'avoir du low cost ou des boîtes qui cassent les prix.
Oui, le barème sera certainement vertueux, mais il y a quand même aussi un autre paramètre à prendre en compte qui est les attentes des copropriétaires. C'est-à-dire que même si on est tous, on travaille tous avec un contrat type, il y a une notion de volumétrie et des copropriétaires qui souhaitent que le syndic soit très présent, vienne une fois par mois, tienne une permanence dans l'immeuble, devront payer plus cher que des copropriétaires qui se disent s'il vient une fois, une heure,
etc. Ça, on peut le jouer sur le nombre de visites évidemment. Qu'on doit indiquer dans le contrat de syndic.
Évidemment. Et donc effectivement, il ne faut pas confondre le référentiel, l'indicateur qui est le prix au lot, parce qu'on a besoin d'un indicateur pour savoir comment on se situe. Mais le prix au lot, c'est en aucun cas une modalité de fixation du prix. Vous l'avez dit, hein, la fixation du prix, c'est la complexité de l'immeuble, les équipements, il y a un gardien, il n'y a pas de gardien. Qu'attendent les copropriétaires? Est-ce qu'ils veulent faire 10 réunions du conseil syndical et les mettre dans le...
Pourtant, il est vrai qu'on reste encore sur ce premier critère.
Mais c'est un indicateur.
Ensuite, on ajuste.
C'est un indicateur, c'est une moyenne. Et donc, comme toutes les moyennes, c'est faux. Dedans, il y a des immeubles avec un prix très faible parce que peut-être très peu de temps passé et très peu d'attentes et de demandes de volumétrie de prestations des copropriétaires. Et inversement, il y a des immeubles très chers parce que les copropriétaires demandent beaucoup de présence et qu'il y a de la complexité.
Sachant que là, on parle de critères objectifs avec un calcul objectif. On peut aussi faire son calcul en fonction aussi des prix du marché, de ce qui se fait, puisqu'on est quand même sur une économie de marché locale, et se caler aussi sur les prix pour ne pas être deux fois plus cher que l'ensemble de ses confrères et pour ne pas non plus être deux fois moins cher, mais même si certains le font volontairement, Pierre-Édouard.
Peut-être en contrepoint de ce qui peut être dit, mais c'est un regard peut-être plus extérieur aussi, c'est que le prix finalement moyen, même s'il était appliqué, ça ne serait jamais qu'une forme de mutualisation. Parce que certes, il y a des copropriétés qui prennent plus de temps, il y en a d'autres qui prennent plus de temps, ça fait une moyenne finalement qui peut assurer une forme de rentabilité. Puis sur les planchers, il faut faire attention, parce que quand j'entends plancher bas, moi j'entends tout de suite plancher haut. L'un ne va pas sans l'autre, parce qu'on ne peut pas interdire d'être moins cher si on ne peut pas interdire d'être plus cher. Et la liberté des prix, c'est aussi celle d'être moins cher. Et c'est vrai qu'on entend parfois des débats sur du low cost, comme c'était pointé du doigt, mais le low cost, ça fait partie du marché. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi, sur un marché, d'avoir des opérateurs moins chers, peut-être pour des prestations moins développées, encore que parfois on peut discuter, mais pour des prestations un peu moindres, qui permettent à des personnes d'accéder déjà à un service professionnel plutôt que de ne pas en avoir, et d'avoir d'autres qui sont beaucoup plus chers, avec des services premium, qui vont satisfaire d'autres types de syndicats, d'autres types de copropriétaires, etc. Donc je trouve que la liberté des prix est quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Enfin, ça, c'est un point de vue qu'on peut discuter, mais je crois que si on a des barèmes, ils vont s'insérer dans les deux sens. Si on a un minimum, on aura forcément un maximum. Donc je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt des syndics, finalement, de revendiquer des minimums ou des maximums et des prix fixes. Après, sur la moyenne, je crois que le contrat de syndic, finalement, après on peut revenir sur le contrat de syndic, on en a déjà discuté, c'est pas l'objet ici, mais le contrat est finalement assez équilibré sur la répartition des prix. Parce que si on regarde, on a certes le forfait, avec ce prix qui pourrait être calculé au lot, mais pour les immeubles neufs, il y a déjà une forme de prime. Parce que le suivi assurantiel peut être facturé en plus. Or, qu'est-ce qui prend du temps dans les immeubles neufs ? Ce sont les déclarations de sinistre. Ce sont les DO.
Les expertises de majorage.
À partir du moment où le syndic peut facturer à l'heure ou au forfait, il choisit l'une des deux options pour tout le suivi des procédures sinistres, il a déjà sa prime pour l'immeuble neuf. Donc au fond, le contrat anticipe déjà un certain nombre de ces questions. Celles qui peuvent rester en suspens et qui pourraient être débattues, c'est lorsqu'il y a une présence d'un gardien. Où là, il n'y a pas de majoration en fonction des situations. Mais là, c'est au syndic de le prévoir dans son forfait, puisque c'est une tâche qui relève de sa tâche dite ordinaire.
Sachant que la présence d'un gardien peut être un avantage ou un inconvénient. Parce que ça peut être une aide précieuse, comme ça peut être un boulet, entre guillemets.
Ça dépend s'il est en train de partir à la retraite ou pas, s'il faut l'embaucher, s'il faut le
faire partir. S'il y a des copropriétaires qui s'opposent, qui veulent le licencier, etc. Ça, c'est des choses qui prennent effectivement du temps.
Voilà, mais donc simplement en contrepoint, je ne suis pas sûr que la situation qui est souvent discutée en matière de prix soit si défavorable que ça. D'ailleurs, un indicateur, peut-être que je ne veux pas me faire beaucoup d'amis dans la profession des syndics, mais un indicateur assez intéressant, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup, si ce n'est il n'y a pas de faillite de syndics de copropriété, en tout cas pas dans des syndics organisés. C'est-à-dire qu'on trouve des défaillances totales chez des syndics, mais c'est parce qu'il y a eu une très mauvaise gestion de l'entreprise en sa généralité. Mais des syndics qui font faillite à défaut de rentabilité, on en voit assez peu. Au contraire, c'est une activité qui semble générer un flux de cessions, de rachats de la part de certains opérateurs auprès d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a une attractivité.
En tout cas, il y a des clients.
Et vraisemblablement, il y a une rentabilité. Sinon, il n'y aurait pas une politique de croissance par des rachats et donc une politique de croissance externe. Si ça n'était pas rentable, il n'y aurait pas cette pratique-là.
Alors, critères du lot, en pratique, on y est toujours. En sortir, on se pose la question. Le temps passé, on a bien compris que c'était un critère essentiel. Mais comment l'anticiper ? Mais effectivement, d'autres prestations permettent de se rattraper si on n'a pas su ou pu anticiper le temps chronophage. L'émission touche à sa fin. La prochaine fois, on abordera, là, on n'a pas le temps, les travaux de rénovation globale en copropriété. Et c'est pas plus mal qu'on en parle la prochaine fois parce qu'il y a une commission parlementaire là qui s'est mise en place sur l'efficacité des aides publiques en matière d'aide aux copropriétés, à la rénovation énergétique et la rénovation globale, puisque les politiques là se plaignent, ne savent pas comment inciter ou obliger, j'ose le mot, les copropriétés à s'engager dans la voie de gros travaux. Je propose qu'on en parle la prochaine fois. Merci à vous, merci Pierre-Édouard.
Merci Gilles.
Donc je rappelle que vous êtes avocat barreau de Paris, barreau de Bordeaux. Je vous refais un peu de com. Vous avez écrit Le Conseil syndical aux éditions Edilex avec Guillaume Gilles. Alexis de Coster, vous êtes responsable métier, copropriété, administration de biens chez Square Habitat, Crédit Agricole, Service Immobilier. Sabrina Meghetti. Ça s'est bien passé pour la première ?
Très bien.
Bon, bah, écoutez, voilà, ça y est, vous êtes intronisé. Donc, je rappelle que vous êtes responsable agence chez Quadral Property et Mathieu Mialaret, responsable métier ADB CoPro chez Foncia.
À bientôt.
Voilà, je vous remercie à tous et puis bah, je vous dis à la prochaine.
À très bientôt.
Normal. Ciao, ciao.
À bientôt.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.